Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir. Les images font la une des médias ces derniers jours. L'éruption de colère des Américains qui s'étend dans le pays une semaine maintenant après la mort de George Floyd. George Floyd, un homme noir, étouffé par un policier qui a maintenu son genou sur son cou et ce, malgré ses appels à l'aide. Depuis, le pays s'embrase. Manifestations, pillage et destruction parfois, et en face, le recours à la garde nationale et des couvre-feux imposés dans plusieurs villes. RFI vous propose ce soir une heure d'analyse. Pendant les 20 prochaines minutes, nous allons parler avec mes invités de la réponse politique à ce mouvement de colère, de ses conséquences possibles aussi à 5 mois maintenant de l'élection présidentielle. Et puis, à partir de 19h30, le débat du jour sera consacré au droit et à la justice pour les Noirs américains. Bienvenue. Pour décrypter la réponse politique, la gestion politique de cette situation et puis les influences donc que cela pourrait avoir sur la campagne pour la présidentielle, je reçois deux invités. Bonsoir Françoise Coste.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et professeure à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Et nous sommes également en ligne avec Soufiane Al-Sabag, professeure de géopolitique au Baruch College de New York. Bonsoir. Ou bonjour plutôt, bonjour. Parce qu'il est 13h chez vous. Bonjour.
Exact.
Alors malheureusement, il ne s'agit pas du premier décès d'un homme noir victime de violences policières aux États-Unis, mais les protestations prennent beaucoup d'ampleur cette fois-ci. Soufiane Al-Sabag, vous qui vivez aux États-Unis, est-ce que vous avez le sentiment que le mouvement de colère de ces 6 derniers jours a quelque chose de particulier, a quelque chose de nouveau ?
Pas vraiment de nouveau, mais c'est une intensification de la violence qui effectivement peut s'expliquer par le fait que ces événements sont au fond très communs. Quand on regarde lors des dernières années, on peut se concentrer sur les 20 dernières années, mais ça date évidemment de bien avant cela, une répétition systématique d'événements qui sont extrêmement similaires. On voit des forces de police s'attaquer tout le temps à des minorités, abusant leurs prérogatives de manière assez visible. Et effectivement, le fait qu'aujourd'hui, la politique américaine en tant que système pour résoudre des problèmes n'est plus capable d'être efficace, et bien vous avez une réponse qui s'organise autrement que par la politique, et la violence en fait se fait de toujours plus importante, événement après événement, et le système politique n'est pas capable de contrer les effets initiaux, d'empêcher les événements au départ de se déclencher, parce que rien n'est fait pour en fait essayer de rendre les choses meilleures.
Vous nous le disiez, la réponse de plus en plus violente, les manifestations s'étendent, les émeutes aussi. Et jusqu'à la Maison-Blanche, puisqu'il y a eu des protestations juste devant, les médias américains rapportent même que la famille Trump a été mise à l'abri un moment dans un bunker souterrain ce week-end. Est-ce que ça veut dire, Françoise Coste, que les manifestations ne sont pas simplement une réaction à la mort de George Floyd, mais une vraie colère profonde contre le président et contre les responsables politiques ?
Oui, la colère, hélas, le problème est vu comme le monde aux États-Unis, et je pense que l'intensité d'aujourd'hui, elle est peut-être aussi due au fait que sous Obama, vous vous rappelez de Ferguson dans le Missouri, il y avait eu le mouvement Black Lives Matter qui avait éclos, et Obama avait publiquement, plus ou moins, apporté son soutien au mouvement, c'était donc il y a 5-6 ans maintenant, et sauf que, concrètement, l'administration d'Obama n'avait pas vraiment fait grand-chose pour améliorer la situation, essentiellement parce qu'en fait, les questions de police, c'est des questions locales aux États-Unis qui dépendent des villes ou des États. Alors, sous Obama, le ministère de la Justice avait tenté de lancer des programmes pour monitorer, superviser les forces de police municipales identifiées comme les plus racistes et les plus violentes dans le pays. Donc c'était déjà pas grand-chose, et de toute façon, tout ce que le peu qu'Obama a fait, ça a été défait par Donald Trump. Donc là, la colère, elle dépasse Trump. C'est pas lui qui est responsable de ce qui s'est passé à Minneapolis la semaine dernière. C'est pas parce que l'administration, le problème est bien plus vieux. Mais comme Trump, et ça arrive aussi à un moment où la population est de toute façon excédée parce qu'il y a eu, ça va faire 3 mois de confinement aux États-Unis, donc les gens sont aussi fatigués et psychologiquement, pour d'autres raisons, à bout. Donc c'est aussi une population qui a besoin, pour plein d'autres raisons, de s'exprimer et de manière peut-être un peu excessive.
Vous nous le disiez, au moment des événements de Ferguson, il y a quelques années, Barack Obama avait apporté son soutien au mouvement Black Lives Matter, qui avait émergé à ce moment-là. Là, Donald Trump, comme d'habitude, il tweete beaucoup, mais on ne l'a pas encore entendu sur ces événements. Pourquoi est-ce qu'il choisit de ne pas faire de discours? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prise de parole solennelle, Soufiane Al-Sabag?
Écoutez, j'ai une raison à vous apporter. Je pense qu'on regarde le système politique américain, encore une fois. La raison est extrêmement simple. Donald Trump est un conservateur. Le but politique des conservateurs est de conserver. C'est-à-dire que tout va bien. Les équilibres politiques actuels nous vont. La façon dont fonctionne l'économie, c'est très bien. Il ne faut rien changer. La place des minorités dans la société, elle est ce qu'elle est. Surtout, elle ne doit pas changer. Donc, quand on comprend en fait ce contexte structurel, systémique, politique, on comprend que la réponse des conservateurs ne peut être que ce qu'elle est. Ils n'ont aucun intérêt politique à ce que les choses changent. Parce que dans le système politique de la démocratie, si vous voulez, un énorme défaut pour les républicains et les conservateurs, c'est que si les gens votent, si les gens, notamment les plus jeunes, qui veulent voir les choses changer, qui voient les défauts de la société, se mobilisent et effectivement sont capables de prendre le pouvoir politiquement par le vote, eh bien, ils seront en position extrêmement précaire. Politiquement, les conservateurs ne représentent une portion de l'électorat de plus en plus faible, année après année. Vous avez vu que Donald Trump est élu il y a 4 ans avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Ça en dit long sur, en fait, la base politique du conservatisme des États-Unis, qui est toujours plus faible, mais politiquement représentée toujours plus fortement.
Et je pourrais ne rien changer, faire en sorte que la situation perdure telle qu'elle est, en tout cas plus ou moins. Et clairement, le président américain privilégie jusqu'à présent la réponse sécuritaire. Il a parlé quand même d'une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire, mais il a aussi repris une phrase qui est très connotée. Il a dit « quand les pillages commencent, les coups de feu aussi ». Et ça, c'est le chef de la police de Miami qui l'avait prononcé à la fin des années 60 pour menacer à l'époque les manifestants pour les droits civiques, Françoise Coste.
Oui, ça a été sa réaction et elle est très logique sur un plan politique puisqu'on est à l'année électorale, bien entendu. Et tout le monde s'accorde pour globalement dire que la gestion de la crise du Covid, j'y reviens, par Trump a été mauvaise, même si dans les sondages, il n'en a pas tant souffert que ça. Mais là, ces émeutes, en fait, elles tombent très bien pour Trump, puisqu'elles permettent, on voit bien dans la couverture médiatique, de parler d'autre chose que de la pandémie. Et surtout, non seulement on parle d'autre chose, mais cette autre chose, c'est traditionnellement une thématique, la loi et l'ordre, la sécurité publique, qui justement, je suis d'accord avec mon collègue, qui bénéficie aux conservateurs américains, parce que le mouvement conservateur contemporain s'est largement construit en réaction, en backlash aux excès des années 60, ce qui a été interprété par une large part de la population blanche, comme les excès des années 60. Et donc, la loi et l'ordre, c'est un vieux slogan nixonien, qui date de 68, justement, comme cette expression qu'il a tweetée, Trump. Et là, le Parti républicain retrouve ses bases, si vous voulez. Le Parti républicain sait faire la loi et l'ordre, la base républicaine comprend ses slogans, elle apprécie, et donc c'est une façon électoralement parlant pour Trump de se remettre en lice et de manière plutôt confortable dans la présidentielle, dans la campagne électorale pour la présidentielle de novembre.
Alors, on l'a dit, il a tweeté jusqu'à présent un certain nombre de déclarations comme celles dont on parlait à l'instant, ce qui ne contribue pas forcément à apaiser la tension et chose assez rare quand même, il faut le dire, Françoise Coste, on entend en ce moment des voix républicaines regretter le discours qu'il a tenu ces derniers jours.
Oui, et pour en revenir au fait pourquoi il ne parle pas, ou qu'il ne parle pas autrement que par des tweets, pourquoi il ne fait pas un grand discours depuis le bureau ovale chez les démocrates, mais chez les républicains aussi, vous avez raison, des voix s'élèvent pour dire la situation est tellement historique qu'il faudrait que Trump monte un peu au-dessus de la mêlée et fasse une grande adresse à la nation en direct depuis le bureau ovale pour apaiser la situation. Donc ça, même son camp le demande. Mais, en interne, on voit bien que ça bloque. Et une des raisons, c'est que Trump n'a jamais été très à l'aise dans ce type d'exercice rhétorique, l'adresse solennelle depuis le bureau ovale. Il n'a pas souvent fait, et la dernière fois qu'il a fait, c'était, rappelez-vous, juste avant, début mars, quand l'épidémie du Covid a vraiment s'est vraiment envolé en Europe et aux États-Unis. Et donc début mars, il a fait cette adresse où il a en particulier annoncé l'interdiction de rentrer sur le territoire pour les Européens. Et ce discours a été mal préparé, rempli d'erreurs, il a mal prononcé, la Maison Blanche ensuite a dû corriger plusieurs choses que Trump avait dit. Et donc là, les équipes de Trump ont peur que s'il retente l'exercice, il échoue de nouveau. Et puis de toute façon, lui a été humilié par ce discours raté, donc il n'a pas très envie de se retrouver humilié, et puis il est tellement à l'aise avec ses tweets, il maîtrise tellement bien que de son côté à lui, de sa perspective, pourquoi tenter un autre type de communication, un autre ton, notre discours que ce qu'il réussit si bien.
Oui, c'est beaucoup plus facile pour lui, effectivement, de continuer à tweeter. Alors, Donald Trump a pointé du doigt les Antifa dans un tweet, justement. De qui parle-t-il précisément? Et est-ce qu'il peut vraiment les inscrire sur la liste noire des organisations terroristes, comme il a menacé de le faire, Soufiane Al-Sabag?
C'est un peu curieux, parce qu'effectivement, les antifascistes aux États-Unis, en tant que groupe organisé politiquement, sont extrêmement mineurs. Ils pèsent beaucoup moins, c'est significativement moins, que les groupuscules d'extrême droite qui sont plutôt supporters de Donald Trump. Donc ça, c'est un premier challenge, je dirais, structurel que Trump va devoir affronter. La deuxième réponse à votre question, c'est que le mouvement antifasciste, il est assez largement, je dirais, virtuel. C'est plutôt un espèce de chiffon rouge que Donald Trump s'amuse à agiter comme ça pour mobiliser sa base électorale, montrer, comme François Scoss l'a dit, que les conservateurs sont ceux qui seront « tough on crime », comme on dit, ceux qui seront durs contre les perpétrateurs de crimes et de violences. Donc ça, c'est vraiment l'image électorale, l'espèce de plan qu'il essaye de vendre à la base conservatrice pour montrer qu'il est l'homme de la situation, que le Parti républicain doit rester au pouvoir et que surtout, il faudra se mobiliser lors de l'élection de novembre, car le message est très clair, si vous laissez le pouvoir aux démocrates, eh bien regardez le chaos que cela peut devenir.
D'ailleurs, ça aussi, il l'a dit dans des tweets, puisque il en a évidemment profité pour tacler les démocrates. Hier, dans un tweet, il interpellait les maires et les gouverneurs démocrates en leur disant de s'endurcir face à ce qu'il appelle donc les anarchistes, c'est exactement ce que vous nous disiez. Et puis, il en a profité pour glisser un petit mot pour Joe Biden, qu'il appelle Sleepy Joe, donc Joe l'endormi. Est-ce que, clairement, Donald Trump instrumentalise la situation dans la campagne électorale, Soufiane Al-Sabag?
C'est assez clair, et encore une fois, il a absolument tout intérêt, parce qu'il veut projeter cette image des démocrates qui sont, je dirais, mous sur le crime. Il vend une espèce de présidentialisation extrêmement masculinisée, extrêmement virile dans ses valeurs. Et au fond, ce que cette crise, actuellement, ces violences nous interrogent sur le fait qu'il y a, au contraire, il manque beaucoup d'humanité. C'est beaucoup d'humanité dont on aurait besoin pour régler les problèmes en profondeur de la société américaine. Et les conservateurs ne sont capables d'offrir qu'une réponse très virile, très masculine, si vous voulez, qui, sur le court terme, peut-être va mettre fin aux violences, mais ça n'aura strictement rien réglé. Et c'est ce mal très profond que l'Amérique, aujourd'hui, doit soigner, parce qu'on le voit très bien. Vous pouvez régler la situation dans les 3 prochaines semaines, et vous pouvez être sûr que dans les 5 ans à venir, vous aurez encore des multiples incidents de ce genre qui vont se reproduire. Et très clairement, aujourd'hui, les conservateurs n'ont pas intérêt à résoudre ce problème parce que électoralement, ça appuie sur le fait qu'aujourd'hui, vous votez contre plutôt que pour. Et le message de Trump, c'est surtout mobilisez-vous pour voter contre les démocrates, car vous devez les empêcher d'arriver au pouvoir. C'est ça, c'est ce sur quoi l'élection de 2020 va se jouer.
Alors, électoralement, justement, comment est-ce qu'on se positionne de l'autre côté? On a vu aujourd'hui que Joe Biden avait rencontré les responsables de la communauté noire. Il a promis la création d'une commission de contrôle de police dans les 100 premiers jours de son mandat s'il était élu en novembre prochain. Comment est-ce qu'il se positionne dans tout cela, Françoise Coste?
C'est un peu une répétition générale des deux rôles que vont endosser Trump et Biden dans la campagne. Donc, effectivement, Trump, ça va être l'homme fort, l'homme à la matraque, et qui ne se soucie pas des problèmes systémiques derrière les violences actuelles. Et Joe Biden, il va devoir, c'est une position plus difficile, il va devoir jongler entre, d'un côté, c'est ce qu'il a fait pour l'instant, exprimer une grande compréhension et une grande empathie envers les difficultés de la communauté noire. ce week-end, dans une petite vidéo, il a parlé de l'historique de la question. Il est reparti jusqu'au péché originel de l'esclavage dans l'histoire des États-Unis. Donc, clairement, il sait trouver les mots humains, justement, et empathiques, comme disait mon collègue, pour toucher la communauté noire, dont il va avoir besoin en novembre. Mais en même temps, et c'est cette équation que depuis 50 ans, vraiment, les démocrates ont eu beaucoup de mal à résoudre, s'il est trop identifié par l'électorat comme penchant du côté des émeutiers noirs, il perdra de l'autre côté le soutien potentiel de beaucoup d'électeurs blancs qui voient ces images à la télé et qui sont terrifiés.
Et qui sont peut-être ceux qu'il a plutôt besoin d'aller chercher, parce qu'a priori, les Noirs américains ont plutôt tendance à voter démocrate.
Ils sont acquis à sa cause. Après, la question, c'est est-ce qu'ils votent ? Voilà, ceux qui votent pour les démocrates, mais en quelle quantité ? Enfin, une des raisons pour laquelle Hillary Clinton a perdu en 2016, c'était une plus forte abstention que d'habitude dans la communauté noire. Donc, il faut aussi motiver cette communauté. Mmh. Et ensuite, donc, vous avez raison, les groupes blancs dont il a besoin, c'est surtout les femmes blanches qui avaient voté majoritairement pour Trump il y a 4 ans, et ce qu'on appelle l'électorat suburbain, donc des banlieues résidentielles blanches, qui, ça c'est un gros cliché de la politique américaine, sont toujours horrifiés par la violence dans les centres-villes. Ces émeutes, elles sont dans les centres-villes déjà majoritairement noires. Donc, c'est cette middle class, upper middle class blanche des banlieues résidentielles qui va faire l'élection. Donc Biden doit aussi trouver un moyen de lui parler à elle pour l'instant. Mais bon, là, on est dans le feu de l'action. Pour l'instant, il n'a pas encore fait. Mais il a intérêt à très vite trouver une façon de aussi gérer la crise en pensant à cet électorat-là.
Alors, la mort de George Floyd et le mouvement de colère qu'on observe depuis une semaine intervient en pleine crise du coronavirus. On l'a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Une crise qui a aussi révélé l'ampleur des inégalités sociales, puisque les Noirs sont beaucoup plus malades, plus susceptibles aussi de succomber au virus que les Blancs. Soufiane Al-Sabag, est-ce que ces deux événements pourraient faire de la question sociale et des inégalités un point central de la campagne électorale ?
Ça sera sans aucun doute un point central de la campagne, mais encore une fois, uniquement d'un seul côté. Parce qu'il y a un côté de l'échiquier politique qui n'a strictement aucun intérêt de parler de ces questions. Tout va bien, Madame la Marquise, circulez, il n'y a rien à voir. Et effectivement, il y a vraiment une égalité sociale qui est extrême de plus en plus. La crise du coronavirus n'a rien arrangé à cela. Mais seulement une partie de l'électorat, située sur la gauche de l'échiquier politique, a vraiment intérêt à ce que cela change. Et donc, je pense que Joe Biden va multiplier les messages en ce sens, mais au contraire, Donald Trump, il n'a vraiment aucune réponse à apporter à cela, parce que la situation lui convient très très bien. Son travail pour l'élection de novembre, ça va être de faire élire un maximum de républicains conservateurs qui pensent comme lui, ceux à tous les échelons de la politique américaine. Parce que, effectivement, ma collègue l'a dit, cette crise ne dépend pas de la politique fédérale. Ce sont des gouverneurs, des maires, des shérifs qui, localement, sont conservateurs et gèrent la crise d'une façon ou d'une autre. Et tous les républicains, en fait, sont alignés sur le fait que, socialement, vous n'avez pas intérêt à voir les choses changer parce que le système qui les construit avantage les politiques conservatrices. Donc c'est, encore une fois, vous ne verrez cet argument que du côté de Joe Biden avec la ligne de crête que Françoise Coste a extrêmement bien détaillée. Être empathique, mais ne pas l'être trop, on risque de passer pour Sleepy Joe, Joe le mou, celui qui n'est pas capable d'adresser fortement les problèmes.
Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Soufiane Al-Sabag, professeure de géopolitique au Baruch College de New York, et Françoise Coste, historienne et professeure à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. À la réalisation ce soir, il y avait Laurie Plisson, attachée de production, Éléonore Krenik et Patrick Adam à la rédaction en chef. Décryptage, c'est donc terminé pour aujourd'hui, mais on continue de parler de la mort de George Floyd, nouvelle victime noire de brutalité policière aux États-Unis et de ses conséquences dans le débat du jour, dans quelques secondes maintenant. Quel droit et quelle justice pour les Noirs américains ? On en parle tout de suite sur RFI, évidemment. Restez avec nous.